Élection départementale des 22 et 29 mars. Aujourd'hui, le binôme Thierry Leroy et Gladys Matruda. Bonjour.
Eh bien, bonjour.
Bonjour.
Alors, en général, la première question, c'est présentez-vous, parce que tous nos auditeurs sur un énorme canton dorénavant ne vous connaissent pas tous. Gladys.
Bonjour, non, je me présente Gladys Matruda. J'habite à Monteils depuis 2004. Je me suis installée avec ma famille et j'exerce la profession d'enseignante et de directrice. C'est une fonction que j'apprécie énormément parce qu'elle me met en lien étroit avec les divers partenaires de l'école. Et ça me permet aussi d'être au cœur de certaines constructions de projets dans la commune. Donc voilà, un métier que j'exerce avec passion.
Alors, vous êtes un des binômes particuliers, Thierry Leroy, vous allez vous présenter, mais vous êtes un des binômes particuliers qui va à cette candidature avec un drapeau, mais pas sans étiquette.
Ah oui, on voulait être clair. On voulait être clair, nous sommes des candidats du Parti Socialiste, nos suppléants aussi. C'est un des besoins de cette élection, hein, d'avoir de la clarté. Beaucoup d'électeurs sont désorientés par la réforme territoriale qui fait qu'on a des cantons plus grands, un contexte de compétences encore pas très clair. Il s'est clarifié maintenant. Et nous, on a pensé que c'était bien d'être clair, d'avoir des candidats identifiables, c'est pas le cas de tout le monde, et d'avoir surtout une orientation politique qui apparaît. Ça veut pas dire que d'ailleurs tout ce qu'on propose, c'est dicté par l'appartenance partisane, bien entendu. Alors, si je me présente, je voudrais dire, Gladys n'a pas dit qu'elle, elle est fille d'agriculteur de la région, de Caussade. Moi, je ne suis pas né, en revanche, de la région. Elle, on l'entend. Elle est née ici. Moi, on l'entend aussi, je ne suis pas né ici. Mais je suis un enfant adoptif, comme je dis souvent. Ça fait maintenant 11 ans que je suis installé à Saint-Antonin. Et j'y suis même maintenant conseiller municipal depuis l'an dernier, conseiller à la communauté de communes. Voilà, mon boulot est à Paris, au Conseil d'État, où j'ai encore un an d'activité.
Alors on peut être à Paris au Conseil d'État et briguer un suffrage comme ça pour avoir une fonction, quoi. Il n'y a pas d'obligation.
Il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a des incompatibilités qui existent, heureusement, mais on peut être conseiller d'État et conseiller municipal, ce que je suis depuis l'année dernière, et on peut aussi être conseiller départemental, c'est tout à fait possible. C'est particulièrement possible quand on bénéficie de l'accès à Internet, ce qui est un des sujets de notre campagne, on y viendra. Avant ça, je veux dire un mot, parce qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Ce qui nous a conduit à nous engager dans cette campagne, c'est quand même qu'on voit bien que cette élection est importante. Elle est importante parce qu'on risque fort d'avoir un premier parti qui serait le parti de l'abstention et un deuxième parti qui sera le parti du Front National. Et si on n'est ni l'un ni l'autre, il faut s'engager et il faut se remuer un peu pour convaincre. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette campagne, qu'on s'est engagé dans cette élection, qu'on a défini des orientations de programme, on va en parler, et qu'on a voulu le faire avec clarté.
Bon, alors justement, pour vous, la raison de votre candidature, ce que vous proposez à cette future assemblée départementale, dont les contours des compétences sont encore un peu à définir, si j'ai bien compris.
Si, enfin, y a un gros bloc de compétences du département qui reste, c'est le social, les aides sociales, la politique sociale. Et franchement, là, c'est plutôt un acquis positif de la majorité départementale sortante, et qu'il faut préserver parce qu'on est devant des échéances très lourdes, à la fois en qualification des personnes. Beaucoup de personnes âgées se plaignent dans les soins à domicile, la qualification des gens qui les aident. Et c'est pas leur faute, c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire, depuis qu'on a lancé l'APA, par exemple, tout l'investissement de formation nécessaire. Mais il faut penser aussi à la démographie. On a devant nous une explosion de la dépense, alors que les recettes publiques vont être plus rares. Ça, c'est une question importante et il nous semble que ceux qui ont bâti ces politiques sont quand même ceux qui les consolideront et les préserveront le mieux. Et on sera dans ce sens dans notre pratique du département.
L'autre axe fort de notre engagement, c'est aussi le développement du numérique dans cette zone du département. Lorsqu'on rencontre les personnes sur le marché ou lors de nos réunions publiques, on sent un sentiment d'injustice dans ce coin du département et le souhait d'accéder à Internet. Ça peut paraître anecdotique, il n'empêche que ça sous-tend d'autres problèmes beaucoup plus vastes. Je pense au transport. Ça réduit également les distances, notamment en termes d'information. Et c'est vrai qu'il y a il peut y avoir sur certaines parties du département un déficit d'information, notamment sur les possibilités de transport. Je pense à la gare de Lexos, notamment, où il faudrait permettre aux gens de savoir que ça existe et qu'ils peuvent y accéder facilement.
Alors, vous nous parlez du numérique qui peut effectivement réduire un certain nombre de transports. Ça peut aussi réduire un certain nombre de démarches administratives.
Tout à fait.
Puisque dans certaines communautés de communes, des relais de services publics permettent d'éviter d'aller à la préfecture pour les cartes grises, je ne sais quelle caisse de primaire d'assurance maladie.
Si je peux dire, il y a deux aspects dans l'importance de l'accès à Internet. Il y a un aspect économique. Et nous, on a une idée de la ruralité qui n'est pas simplement préserver notre cadre de vie pour qu'il soit éternellement ce qu'il était dans notre enfance. On veut une ruralité sans complexe et qui joue de ses atouts, sait faire venir des actifs. Et là, évidemment, il n'y a pas d'activité sans Internet. Aujourd'hui, même tous les agriculteurs ont besoin de l'accès à Internet. Et là où il n'y en a pas, ils sont bien embarrassés. Mais c'est vrai que c'est autre chose encore que Internet, puisqu'on voit bien depuis 4 ans que le département a bâti son schéma départemental d'accès au numérique. Il a été assez sélectif, en commençant par les zones les plus rentables. Et on voit bien les zones blanches qui restent. Les gens demandent partout l'accès à Internet. Et c'était frappant dans notre campagne de rencontrer plusieurs communes où on commençait depuis une quinzaine de jours des pétitions pour avoir un accès là où il y a des zones blanches. Ils n'acceptent pas l'idée qu'on reste avec, pour les cantons ruraux et campagnards, un beau cadre de vie sans pouvoir participer à la vie moderne. Et donc l'accès à Internet, c'est devenu un besoin primaire, essentiel. Donc vraiment, il faut s'en occuper. Je pense que le schéma départemental, autant sur les politiques sociales, il faut consolider. Là, il faut vraiment innover. Sans doute aussi que la collectivité publique s'engage davantage et assure même financièrement les conditions de l'égalité d'accès, quel que soit le territoire.
Est-ce que ça serait envisageable de compenser une inégalité ? Par exemple, quelqu'un qui habite dans une zone où vraiment il faudrait des kilomètres de fil, il faudrait renouveler tout le réseau de cuivre, de mettre des répéteurs, tout ça c'est technique, alors qu'avec une parabole, il capte directement un satellite. Simplement, c'est un investissement.
Oui, c'est la complexité de ce sujet, c'est que l'égalité, elle ne peut pas être la fibre optique partout. On ne peut pas avoir une égalité technique parfaite, parce que ce serait déraisonnable et absurde économiquement. En revanche, qu'il y ait une recherche systématique d'optimisation et que le département, puisque c'est lui qui le fait, le schéma départemental à l'heure actuelle, mette au pot pour assurer cette égalité, c'est tout à fait nécessaire. J'ajoute qu'aujourd'hui, c'est une évolution récente dans le droit, mon métier dans le droit au Conseil d'État, c'est clairement possible de faire de l'aide publique à ce qui est devenu un service public, l'accès à Internet. Jusqu'ici, on traitait ça comme un marché. Et si vous demandez aux élus, aux maires, qu'est-ce qu'ils pensent de l'accès à Internet, ils disent les opérateurs n'en font qu'à leur tête. Ils installent les poteaux sans nous dire, et le département n'est pas maître. Aujourd'hui, s'ils financent l'égalité d'accès, il aura peut-être davantage voix au chapitre.
Mais il aura toujours la problématique que c'est une mission de service public qui a été déléguée sur appel d'offres. Oui. C'était l'opérateur historique qui s'occupait de l'infrastructure, sauf qu'il le fait à reculons.
Oui, mais l'établissement et l'exploitation des réseaux, ce n'est pas un service public jusqu'à maintenant. C'est une décision de la Cour de justice européenne qui vient de dire le contraire. Qu'enfin, on pouvait faire des aides pour l'installation des réseaux sans être coupable d'infraction au droit de la concurrence. Je pense que les départements en France, dans les zones rurales, ils vont utiliser cette innovation.
Donc ça, c'est pour l'accès Internet. Mais il y a plein d'autres compétences imaginables, ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation, des groupes scolaires. Est-ce que la situation est satisfaisante ? Est-ce qu'il y a du boulot, là ?
Le Conseil général du Tarn-et-Garonne permet aux écoles du milieu rural d'accéder à la culture, notamment par des subventions au transport. Donc, évidemment, ce sont des choix politiques, à un moment donné, de mettre l'accent sur l'accès à la culture. Ça paraît primordial aussi pour les concitoyens, d'avoir accès à cette culture au même titre que les autres. Et on rejoint à nouveau, du coup, la problématique du numérique, parce que permettre aux élèves des collèges et des écoles rurales d'avoir un accès à cette culture-là, c'est un enjeu très important.
Voilà. Oui, alors vous abordez cette question. Alors moi, je vais quitter le monde de l'éducation, mais rester dans la culture. Par exemple, les réseaux de lecture publique. Souvent, ici, c'est une médiathèque départementale qui a des têtes de réseau dans des communautés de communes. La compétence médiathèque, c'est au plus près. Mais les élus, ils lisent pas tous des livres.
Hein. Non, mais enfin, je sais pas, dans la communauté de communes qui couvre les deux tiers du canton, la communauté a pris la compétence lecture publique, au moins pour la mise en commun des fonds de bibliothèque. Ça marche quand même assez bien. Et les élus, je ne sais pas s'ils lisent beaucoup, mais en tout cas, ils font le service de la bibliothèque mise en commun.
Il existe des relais à renforcer, évidemment, hein, des relais entre les médiathèques, la médiathèque départementale et les locales. Il est possible localement de demander des livres dans une certaine thématique et de pouvoir les avoir disponibles dans nos communes rurales. Voilà, donc c'est probablement des choses à développer parce que ça répond à un besoin et ça fait partie des points sur lesquels on sera vigilant, oui.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur le rôle du conseiller départemental ? On est aujourd'hui devant un discours que tout le monde adopte, l'abandon de la France rurale. Elle est abandonnée. Moi, je crois que les conseillers départementaux, ils ont un rôle à jouer, même dans le domaine où le département n'est pas forcément compétent, ou qu'il l'est partiellement. Je prends deux exemples. Le collège dont vous parliez, on a déclassé le collège de Saint-Antonin et les collèges de la zone rurale de tout ce qui était éducation prioritaire. Là, il faut évidemment réagir et se battre pour dire, en zone rurale, on a besoin des collèges et derrière, des classes des écoles élémentaires qui sont liées à ce classement en zone prioritaire. Et l'autre exemple que je voulais donner, l'offre de soins. L'offre de soins, ça, c'est un sujet majeur. Ici, on est assez bien organisé dans ce canton, puisqu'on a déjà créé des maisons de santé pluriprofessionnelles qui couvrent assez bien à Caylus et à Montricou, qui n'est pas dans le canton, à Varin également, qui est dans le canton. Et en fait, il reste des déficiences. Et donc, il faut se battre pour ça.
Ah ben, il faut pas avoir besoin de dentiste hein, dans notre canton. Ah, sinon,
oui.
Il faut faire des kilomètres.
Ouais, mais avant le dentiste, il y a la médecine générale. Et là, on est vraiment en grand déficit. Le département peut quelque chose. Il peut aider à la constitution de ces maisons de santé pluriprofessionnelles, mais ça dépasse beaucoup. C'est une affaire aussi de l'État. Il me semble qu'un conseiller départemental doit se battre sur ces sujets-là. Je pense qu'on le fera dans les jours qui viennent. Merci.
Alors, d'autres enjeux pour ou pas les compétences du conseil départemental, quel enjeu vous voyez à cette élection, peut-être au niveau de tout le département, voire peut-être au niveau national ?
Il y a sur cette élection quelque chose de très innovant, c'est la parité. Alors, je crois que la parité, permettre au prochain conseil départemental d'avoir 15 femmes élues et pas suppléantes, c'est une grande innovation. Ça aurait jamais pu se faire sans la loi. Ça fait partie des raisons de mon engagement. Il y avait l'idée de représenter évidemment la population, mais en particulier les femmes. Et voilà, ça faisait partie de mon envie de m'engager. Et il y avait aussi derrière l'idée de lutter contre l'abstention. On en parle énormément. Et s'il y a une raison pour laquelle on peut aller voter, c'est aussi celle-là, en plus de défendre évidemment les politiques départementales. Mais il n'était quand même pas normal que dans une assemblée représentative, il n'y ait aucune femme. Depuis peu, il n'y en avait qu'une à cette assemblée. Donc voilà, ça fait partie des enjeux primordiaux.
Et la loi nouvelle a fait que là où on avait 30 titulaires hommes et 30 suppléantes femmes, un titulaire s'en va, une suppléante arrive, donc 1 sur 30, on va avoir au contraire un nombre égal de femmes et d'hommes. Je pense que pour les électrices femmes, c'est une raison de voter supplémentaire. Donc je suis d'accord avec Gladys, c'est un élément de lutte contre l'abstention, ça, du côté féminin en tout cas.
Donc la parité, bonne chose. Ouais. Est-ce que ça va changer le regard ? En général, les clichés machistes disent que les femmes sont beaucoup plus sociales.
Ça, on verra.
Je prétends pas qu'on soit meilleur que les hommes. Mais par contre, je reste persuadée que chacun a son expertise, ses compétences, autant les hommes évidemment que les femmes. Et c'est pourquoi il faut porter notre voix dans ces assemblées. Alors, j'aime pas trop l'idée qu'on aurait des spécificités, que les hommes pourraient travailler certains domaines et les femmes d'autres.
Mais ce serait reproduire la discrimination, en vérité.
Il y aurait à nouveau cette distinction-là que je ne vois pas, vraiment pas. Moi, dans mon engagement politique, je vois l'intérêt général. Et c'est vraiment quelque chose qui nous anime.
Bon, alors du coup, je vais me faire l'avocat du diable quand même. Dans les domaines, par exemple, de maintien des personnes âgées à domicile, on sait bien que ce sont des professions très féminisées, des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, y compris l'aide au repas, au ménage, etc. C'est pas inné, hein, ça c'est sûr, mais n'empêche que c'est une réalité. Or, vous le disiez vous-même, au moment du choix de l'APA et du CARE, devait s'accompagner des formations diplômantes, hein, avec un statut, etc., comme on l'a eu
Qu'est-ce qu'on a fait comme une formation diplômante?
Qu'est-ce qu'on a eu pour ce qu'on appelait les nounous, hein, du jour au lendemain, une convention collective avec un tarif syndical pour rémunérer, c'est le terme qui m'échappe.
Non, mais moi je peux très bien comprendre qu'aujourd'hui les emplois d'aide à domicile sont majoritairement féminins, pour des raisons qui ne sont pas liées à la spécificité féminine de la fonction. Ça peut tenir au contexte général des inégalités dans la société française. Ces fonctions-là sont mal rémunérées, pas très bien rémunérées, disons, et donc c'est les femmes qui les ont. C'est quand même dans ce contexte qu'on est. On sait bien que les emplois mal rémunérés, parfois encore, dans la société française d'aujourd'hui, on considère ça comme un second salaire, donc ça peut être un salaire modeste. Moi, je crois qu'il n'y a aucune fatalité à ce que ces emplois ne soient pas aussi occupés par des hommes.
Bon, en même temps, la profession d'infirmier est très féminisée et très souvent, puisqu'il n'y a pas ces auxiliaires de vie, on retrouve des actes médicaux.
Oui, mais on sait qu'il y a des conformismes là-dedans. Moi, j'ai vu dans mon métier la profession de magistrat complètement se féminiser en une génération. C'était 90% des hommes quand je suis entré au Conseil d'État et aujourd'hui, c'est inversé. Et je crois qu'il y a des mimétismes qui jouent. Il n'y a aucune fatalité, ce n'est pas des métiers plus masculins ou plus féminins. Alors on peut trouver des connexions, on peut être magistrat avec une compatibilité avec la vie familiale telle qu'on la voit pour les femmes, plus facile. Mais je crois que fondamentalement, c'est des préjugés qui font que c'est comme ça.
Alors moi, ce n'est pas là que je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est que le conseil départemental s'occupant de l'APA et donc du financement, par exemple, du maintien des personnes âgées le plus longtemps possible à leur domicile, curieusement, c'est la sécurité sociale qui paye des actes médicaux qui n'en sont pas, comme des soins d'hygiène, tout bête, changer des draps. Et ça, c'est à cause de l'insuffisance du statut même d'auxiliaire de vie. Que faire, là ?
C'est le partage de la charge entre la sécurité sociale, l'État et le département. Là, le département, il a quand même une responsabilité très importante. C'est lui qui organise sur le territoire les antennes qui permettent d'accéder aux prestations sociales. C'est lui qui fixe les tarifs des maisons de retraite. Il a beaucoup de compétences. Le financement lui vient en grande partie de la sécurité sociale ou de l'État. Et c'est quand même une préoccupation pour le département. Dans les 15 années d'existence de l'APA, il y a eu plusieurs fois des crises où les départements ont appelé au secours l'État. Donc on aura demain, forcément, le même genre de crise où les départements vont se dire, devant la démographie galopante des personnes âgées, on doit avoir davantage de ressources. Donc ça, c'est une question qui va être majeure. Il faut que les départements soient armés pour faire face à ça.
Et avec les dotations générales, ça ne va pas être le cas.
Mais on voit bien que le problème va exister. Je n'ai pas la solution. Ce que je veux dire, c'est qu'on est devant des questions auxquelles il faut se préparer. Il faut que les conseils généraux sachent qu'ils auront une responsabilité devant la population de ce qui sera finalement offert aux personnes âgées à domicile ou dans des établissements.
Bon, les 5 dernières minutes, on ne va pas trouver l'assassin, mais quand même, elles sont consacrées au sujet de votre choix. L'enjeu de cette élection, la raison de votre candidature, vous l'avez déjà développé, mais pour vous, que va changer cette élection ? Si tu veux, je change.
Non. on a déjà parlé de la représentativité à l'Assemblée. Et le renouvellement également dans les conseillers. Il faut s'imaginer que sur les 15 conseillers sortants, ils ne peuvent plus se représenter grâce à la parité, je dirais. Et donc ça, c'est quand même l'un des enjeux importants, c'est le renouvellement de l'Assemblée. La parité, je l'ai déjà évoqué, et le soutien aux politiques sociales. La raison de notre engagement aussi, on voit bien qu'il était difficile de mobiliser les personnes sur cette élection. On ne savait pas très bien ce qu'allaient devenir les départements. Nous, on voulait avoir une candidature claire, clairement identifiable, afin d'amener les gens dès le premier tour à aller voter. Parce que c'est dès le premier tour qu'il faut choisir ses conseillers départementaux.
Oui, si je réponds à votre question, j'aurais tendance à dire qu'il y a dans cet enjeu d'élection à la fois une affaire de renouvellement et un certain besoin de stabilité que je pense les électeurs ressentiront. Le renouvellement, il est produit par l'effet que signale Gladys Matruda. De toute façon, il y a au moins la moitié du conseil départemental qui va être changé, beaucoup plus en vérité, les trois quarts. Donc c'est plutôt positif. Je pense que les électeurs comprennent qu'on ne doit pas garder des conseillers départementaux pendant 20 ans les mêmes. Mais en même temps, il y a une préoccupation qu'on doit avoir, c'est est-ce que ce conseil départemental va être gouvernable ? Il faut une majorité pour le faire fonctionner. Il faut une majorité. Nous sommes très engagés dans le sens d'une majorité de gauche, parce que les politiques du département dont on hérite sont des politiques qui ont été faites par une majorité de gauche, et nous apporterons nos voix au maintien d'une telle majorité.
Donc l'enjeu de cette élection, c'est de maintenir le bienfait jusque-là.
Et de savoir innover là où il y a besoin d'innover. Quand on a parlé d'Internet et quand on a parlé de la manière d'aborder la question de la ruralité d'une façon dynamique, ça c'est plutôt dans l'innovation. Je pense que le schéma départemental d'équipement numérique, il faut sans doute le reprendre.
Est-ce qu'il ne vient pas un peu tard ?
Non, il a 4 ans ce schéma. Ce schéma, il a 4 ans et il a été conçu pour les premiers pas, c'est-à-dire l'équipement de Montauban, des grandes villes. Et aujourd'hui, on est au pied du mur. C'est aujourd'hui que les gens se rendent compte qu'il y a besoin de bouger.
Une question maintenant d'une auditrice attrapée un micro-trottoir sur les transports.
Une question à un élu, ce serait, est-ce qu'il compte améliorer les systèmes de transport pour permettre aux gens qui n'ont pas de voiture de continuer d'habiter en milieu rural. Voilà. Là, pour aller d'une ville à l'autre, on peut aller qu'à la grande ville, on peut pas aller dans le village d'à côté. Pourtant, tous les enfants d'ici vont à l'école d'à côté, mais non, les parents ne peuvent pas aller à Saint-Antonin. Enfin, je suis un peu étonnée. Et la mairie n'a aucun papier tout fait des transports. Ils ne savent même pas qu'il y a un autobus à 8h le matin. Enfin, du coup, pour avoir les renseignements en milieu rural, vaut mieux aller à la ville d'à côté. Ils vont presque savoir mieux que dans le village. Bon, mais je viens juste d'arriver, donc ça va. Je ne vais pas me fâcher déjà.
Alors ça concerne à la fois les transports, mais aussi l'accueil des nouveaux arrivants.
Oui, oui. Mais sur les transports, c'est une question qu'on entend beaucoup dans notre campagne électorale de la part des gens. Et c'est vrai que c'est compliqué dans un territoire comme ça, qui est polycentrique. Il n'y a pas simplement une liaison qu'il faut organiser régulièrement, il y en a plein. Et c'est une des difficultés. Tout le monde s'en occupe un petit peu. Le transport, c'est en principe la compétence des régions, mais le département aussi à sa part. Jusqu'ici, il faisait notamment les transports scolaires. Mais les communautés de communes aussi le font. Celle où nous nous trouvons, la communauté de communes de Quercy-Rouergue, elle s'occupe actuellement de développer ce qu'on appelle le covoiturage, ce qu'on appelle le projet de réseau pouce. Ça ne va pas bouleverser les choses. Mais quand on discute avec les gens, on voit bien que l'information leur manque, même l'information sur ce qui existe, les liaisons ferroviaires qui existent encore, parce qu'on a encore des lignes de chemin de fer ici. Eh ben, on ne les connaît pas. Il y a 6 liaisons dans les deux sens qui passent à Lexos. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. L'information est insuffisante sur ce qui existe. Il y a le transport à la demande qu'organise la communauté de communes. Et il y a évidemment un réseau d'autocars aussi. Alors on peut faire mieux. Je pense que c'est un des sujets, de même que pour vivre de façon dynamique dans ce pays, il faut avoir l'accès à Internet. Il faut aussi pouvoir bouger sans voiture.
Alors, pouvoir bouger sans voiture, ça peut s'accompagner de tas de projets, je sais pas moi, les pistes cyclables, on en a qui font le réseau plat entre Caussade, Nègrepelisse, ouais. Enfin Montauban, Nègrepelisse.
Je pense qu'il faut rien écarter, mais on voit bien que le covoiturage, le vélo, ça va pas remplacer quand même les transports collectifs qu'il faut organiser et faire connaître, et faire connaître.
Alors quoi, la loi Macron va permettre qu'il y ait des bus qui fassent beaucoup plus de réseaux que ça ?
Oui, on n'a pas encore tous maîtrisé ce que la loi Macron apporte dans ce domaine. Plus de concurrence, je ne sais pas si ça fera plus de qualité du service, ça on verra.
Mais ça veut dire que ceux qui ont des licences de transporteurs vont faire davantage de rotation s'il y a la demande.
Non, mais si ça augmente la qualité des services, je dirais bravo. Moi je trouve que ouvrir davantage la concurrence dans une catégorie de service, ça se juge à l'expérience. Donc la loi Macron, je ne la prends pas forcément comme une bénédiction, on verra bien.
La dernière minute, la chose que vous ne voudriez pas partir sans avoir dite.
Moi, si j'avais une chose à dire fondamentale, c'est celle sur laquelle Gladys a le plus parlé, c'est la parité. Parce que je pense que dans 6 ans, quand on se retournera sur ce mandat, on dira qu'est-ce qui a changé en 2015, on dira c'est la parité. Je crois que c'est un vrai bouleversement dont on ne mesure pas l'ampleur. Non pas que les femmes seront différentes des hommes dans la façon d'exercer le pouvoir au niveau départemental, d'assurer les services départementaux, non. Mais c'est un renouvellement et ça va faire qu'une partie de la population qui ne s'y impliquait pas va s'impliquer dans cette vie-là.
Gladys Samatruda, Thierry Leroy, je vous remercie.
Merci, monsieur.
C'était la campagne pour les élections départementales des 22 et 29 mars, le canton du Quercy-Rouergue, où sont également candidats Thierry Cabanne et Carole Dennequin, Sylvie Deray, Yves Sicard, Elsa Moreau, Yves Vidaillac, Monique Ferrero et Léopold Viguier, ainsi que Anne-Philippe et Jacques Tabarly.